Cette semaine, nous parlons de l'épilepsie. C'est une affection chronique du cerveau qui touche environ 50 millions de personnes dans le monde. Elle provoque généralement des tremblements involontaires touchant une partie ou tout le corps de la victime. Cette maladie reste néanmoins peu connue en Afrique, où certains malades sont souvent considérés comme des personnes possédées par des démons ou victime de sorcellerie. Pourtant, n'importe qui peut faire des crises d'épilepsie ou développer la maladie. Pour en parler, nous avons contacté le professeur Amadou Diop. Il est neurologue en service au centre hospitalier universitaire de Fan à Dakar, au Sénégal. Tout d'abord, il nous a expliqué comment se manifestent les crises d'épilepsie.
Si la partie du cerveau qui souffre va jusqu'à provoquer de l'épilepsie, son expression va se voir à ce niveau. Je donne un exemple. Si la partie qui commande le mouvement de la main droite est le siège de l'épilepsie, on va avoir des manifestations anormales au niveau de cette main droite. Alors, en matière de manifestation, celle qui est la plus connue, c'est la grande crise généralisée où on voit un individu qui brutalement tombe, perd conscience et on voit tout son corps se mettre à convulser, c'est-à-dire animé de secousses incontrôlables, involontaires. Ensuite, il va se réveiller au bout de 1 à 2 minutes sans pouvoir lui-même décrire ce qui vient d'arriver parce qu'il était dans un état d'inconscience. Il y a certaines personnes qui vont perdre involontairement leurs urines, d'autres peuvent se blesser, mais tout ceci d'une manière tout à fait involontaire de la part de l'individu. Ça, c'est important de le dire parce que toutes les crises ne sont pas forcément des crises d'épilepsie. Il y a d'autres crises d'origine psychologique chez des gens stressés ou ont certains problèmes psychologiques qui peuvent des fois ressembler un peu à de l'épilepsie, mais c'est pas la même chose. Alors, la deuxième forme et qui touche particulièrement les enfants, c'est ce qu'on appelle la crise d'épilepsie absence, où l'individu, notamment surtout les enfants, pendant quelques secondes est complètement absent, ne réagit plus, ne parle plus, ne bouge plus. Ça dure quelques secondes. Il y a beaucoup d'autres formes de crise d'épilepsie. Ça dépend de la zone du cerveau qui est en souffrance.
Alors, professeur, est-ce qu'il y a une différence entre faire des crises d'épilepsie et être malade d'épilepsie?
Tout être vivant, qu'il soit humain ou animal, doté d'un cerveau, est capable de faire une crise d'épilepsie. Quand on parle d'épilepsie maladie, c'est des personnes chez qui les crises d'épilepsie se répètent de manière imprévisible, n'importe où, n'importe quand, et avec au moins la survenue de 2 ou 3 crises dans leur vie. On peut, par une circonstance pathologique particulière, faire une fois une crise d'épilepsie dans sa vie parce qu'on a eu un traumatisme du crâne, parce qu'on a eu une fièvre très forte, parce qu'on a été dans un environnement où le cerveau a souffert par manque d'énergie ou d'oxygène. Et dans cette souffrance, le cerveau peut se manifester sous forme de crise d'épilepsie qui peut ne jamais plus se répéter dans la vie. Donc on peut tous, chacun et chacune d'entre nous, faire une fois une crise d'épilepsie dans des circonstances particulières. C'est pas une maladie, c'était le symptôme de quelque chose d'anormal en termes d'environnement cérébral. L'épilepsie maladie, c'est des personnes qui font des crises qui surviennent de manière répétée et c'est ça qu'on appelle la maladie épileptique qui nécessite un diagnostic précoce et un suivi régulier.
Est-ce qu'on sait ce qui peut expliquer que certains soient épileptiques et pas d'autres? Quels sont les causes, les facteurs de risque de cette maladie?
On classe les facteurs ou les causes pouvant mener à de l'épilepsie en 2 groupes. Il y a un groupe qui est le plus fréquent, c'est des personnes dont le cerveau est entièrement normal, mais qui ont une certaine sensibilité de leurs cellules cérébrales qu'on appelle les neurones, qui sont des cellules communicantes qui fonctionnent avec des moyens électriques que ces cellules produisent et avec des moyens chimiques. Ces neurones peuvent être très sensibles à n'importe quoi et pour des raisons qui ne sont pas entièrement connues, peuvent parfois se regrouper dans leur souffrance et produire un excès d'électricité qui peut aller jusqu'à l'épilepsie. Mais je dis qu'on fait tous les bilans, scanner, IRM, examen de sang, tout est strictement normal. Le deuxième groupe, qui est un groupe plutôt minoritaire, c'est ce qu'on appelle les épilepsies secondaires. c'est secondaire à quelque chose qu'on peut déterminer. Par exemple, quelqu'un qui a une tumeur du cerveau, quelqu'un qui a un problème vasculaire, c'est-à-dire une partie du cerveau qui est mal irriguée par le sang ou où il y a eu un saignement, peut aussi, parmi ces manifestations, le faire sous forme d'épilepsie. On peut faire une crise d'épilepsie secondaire parce que on a un diabète. On a, en tout cas, X causes médicales ou chirurgicales qui vont déterminer des manifestations d'ordre épileptique.
Est-ce qu'il y a des tests de dépistage de l'épilepsie comme pour les autres maladies? Ou alors est-ce qu'il y a des moyens de savoir, même quand on n'a pas déjà eu des crises, est-ce qu'il y a des moyens de savoir que l'on est vulnérable?
Oui, le moyen principal pour faire le diagnostic de l'épilepsie est un appareil qu'on appelle électroencéphalogramme. Quand on met sur la tête d'un individu des électrodes et qu'on branche ces électrodes-là à une machine qu'on appelle l'électroencéphalographe, on peut détecter, comme on le fait pour le cœur ou les muscles, ces ondes électriques. Dans le cadre de l'épilepsie, on voit des ondes qui, au lieu d'avoir une morphologie normale, vont avoir des signes d'exagération et d'excès. Derrière ce premier moyen de diagnostic, il y a d'autres moyens qu'on utilise, les moyens d'imagerie, comme le scanner ou l'imagerie par résonance magnétique qu'on appelle IRM. Il y a aussi des moyens d'analyse de sang, pour voir est-ce que dans le sang, il n'y a pas eu une infection ou un excès de sucre ou d'autres facteurs qui ont fait souffrir le cerveau. L'intérêt de ces deuxièmes groupes de moyens, c'est de déterminer une cause et de mettre en application des moyens soit médicamenteux ou chirurgicaux pour arrêter la cause de déclenchement des crises d'épilepsie.
Comment venir en aide à quelqu'un qui a ces crises d'épilepsie lorsque ces crises surviennent?
Il faut savoir que dès que la crise d'épilepsie se déclenche, il n'y a absolument aucun moyen dans les minutes qui suivent de l'arrêter, si ce n'est injection de médicaments qui peuvent calmer le cerveau et arrêter la crise. Il faut simplement éloigner du sujet tous les objets qui peuvent le blesser, parce que je vous ai dit, tout ce qu'il fait, il n'en est pas conscient. Il faut l'éloigner des sources de blessures. La deuxième chose à faire, c'est que rapidement, il faut le diriger vers les urgences médicales parce qu'on a des médicaments qui permettent d'arrêter ces crises. Ce qu'on n'aime pas que les gens fassent, c'est d'essayer de bloquer ce corps qui convulse. Parce qu'en essayant de bloquer ce corps qui convulse, vous risquez même de provoquer une fracture tellement les secousses sont violentes. La deuxième chose, il ne faut surtout pas mettre vos doigts, votre main dans la bouche de cet individu. Si jamais votre doigt se trouve entre les dents, il peut vous mordre involontairement de manière gravissime. Donc il faut laisser la crise passer, ça dure 1 à 2 minutes, et amener rapidement le sujet vers un centre de santé afin qu'on lui administre les médicaments qui vont prévenir une récidive de crise. Parce que si les crises se répètent les unes après les autres, il peut entrer dans un état neurologique beaucoup plus sévère, et ça peut mettre en jeu le pronostic vital ou fonctionnel de tels individus.
Est-ce qu'il y a des signes qui annoncent l'arrivée prochaine d'une crise d'épilepsie? Est-ce que le patient peut ressentir que peut-être là, je suis en train de développer des manifestations prochaines d'une épilepsie?
Certaines crises d'épilepsie, oui, d'autres non. Non, c'est le cas des crises généralisées. Dans ces crises généralisées, il n'y a pas de signe d'avertissement. Ça vient brutalement, la crise se déroule et puis elle cesse seule. Il y a un autre groupe de crises d'épilepsie qu'on appelle les crises partielles. Alors ça, si ça touche une partie du cerveau qui gère telle fonction du corps et de l'organisme, si la crise démarre par cette région ou si la crise se limite à cette région et que le sujet ne perd pas conscience d'emblée, il peut voir, je vous donne un exemple, sa main gauche en train de trembler, ensuite le tremblement remonte à son avant-bras, remonte à son bras, à son épaule, fait trembler le visage, puis la jambe, etc., etc. En ce moment-là, tant que le sujet ne perd pas conscience, dans le cadre d'une crise partielle, l'individu peut décrire les signes de début d'une crise qui peut rester partielle pendant quelques minutes, quelques secondes, ou bien être partielle et dans un deuxième temps se généraliser. Mais dès que la crise devient généralisé, le sujet perd conscience.
Est-ce qu'il y a des interdits pour les personnes qui souffrent généralement d'épilepsie? Par exemple, est-il interdit de faire du sport et autres? Est-ce qu'il y a des choses que les épileptiques ne doivent pas faire?
Ça dépend de la cause de l'épilepsie et de sa forme. Mais globalement, les conseils que nous donnons aux personnes dont le diagnostic d'épilepsie est confirmé, premier conseil, prendre son traitement quotidiennement à la dose prescrite. Deuxième conseil, c'est de s'organiser et veiller à avoir un bon sommeil de qualité, notamment nocturne. Parce que le cerveau d'une personne, même non épileptique, se repose principalement la nuit au cours du sommeil. En matière d'activité sportive, les sports qu'on évite de suggérer à une personne qui souffre d'épilepsie, c'est les sports où on monte, comme les escalades, où on descend, comme les descentes dans des cavernes ou la plongée sous-marine, par exemple. Mais les sports collectifs, les sports de manière générale où l'effort est progressif, maîtrisé, sont même bénéfiques. On recommande d'éviter les sports où on reçoit des coups, la boxe, de karaté ou des sports de combat, parce que on n'aimerait pas que ces petits traumatismes crâniens favorisent une exacerbation de la souffrance cérébrale sous-jacente. Sur le plan professionnel, il y a, selon les règlements de chaque pays, des professions pour lesquelles une personne souffrant d'épilepsie peut être considérée comme inapte. Un conducteur, moyen de transport en commun ou d'avion, des professions où on est confiné dans des atmosphères où l'oxygénation n'est pas bonne et qui peuvent provoquer aussi une souffrance du cerveau par manque d'oxygène ne sont pas très recommandées.
Vous avez déjà formulé certaines recommandations. Est-ce qu'il y en a d'autres pour éviter des crises d'épilepsie ou alors d'éviter cette maladie tout simplement?
Les mesures préventives sont d'abord le bon suivi des grossesses chez les femmes enceintes, parce qu'une grossesse pathologique provoque une souffrance chez le fœtus, et la souffrance du fœtus, si elle touche le cerveau, peut prédisposer un enfant à souffrir d'épilepsie. Deuxièmement, c'est de vacciner les enfants contre les maladies infectieuses, parce que toutes les maladies infectieuses, quand elles atteignent un certain stade de gravité, peuvent impacter sur le fonctionnement du cerveau et donner des crises d'épilepsie. Troisièmement, c'est les politiques de prévention des traumatismes, notamment par accident de la route, le port de casque chez les motocyclistes et enfin les mesures de prévention des accidents, parce que tout traumatisme dans lequel la tête est impliquée peut blesser le cerveau et prédisposer cet individu-là à des crises d'épilepsie. Quatrièmement, c'est de traiter et de diagnostiquer à temps les maladies comme l'hypertension, le diabète, les problèmes de reins, de foie et autres, qui, à un certain stade d'évolution, peuvent aussi provoquer une souffrance du système nerveux et engendrer dans leurs manifestations tardives des crises d'épilepsie. Et enfin, cinquièmement, dans son entourage, quand on voit une personne qui a des périodes où elle perd connaissance, qu'elle convulse, qu'elle tombe et qu'elle font les manifestations dont nous avons parlé au cours de cette émission, c'est l'inviter à aller consulter le plus tôt possible en milieu médical, parce qu'on sait maintenant qu'une épilepsie diagnostiquée très tôt, mise très précocement sous traitement efficace, garde 80% de chances de voir les crises complètement s'arrêter et de voir la personne entièrement délivrée de son épilepsie, s'il s'agit, je le répète, d'une épilepsie primaire qui n'a pas une cause gravissime qui va relever d'autres attitudes thérapeutiques.
Nous remercions le professeur Amadou Diop qui nous répondait depuis Dakar, au Sénégal.
Quelqu'un l'a vécu? Voici son témoignage.
L'épilepsie est une maladie qu'elle connaît bien. Elle, c'est Marie-Angèle Abanga. Cette Camerounaise a perdu son frère épileptique il y a quelques années. Marquée par cette disparition, elle a décidé de s'engager dans le combat contre cette maladie. Elle dirige aujourd'hui la fondation GBMEM qui lutte contre l'épilepsie. Depuis Yaoundé au Cameroun, elle nous a parlé de son association et de son combat.
Notre fondation s'appelle GBMEM, elle lutte contre l'épilepsie. GBM, c'est le nom de mon petit frère, Gabriel Debombe-Sembiaro, et EM, c'est épilepsie et bien-être mental. Mmh. Elle a été créée suite à son décès en août 2014, et elle a été créée pour lutter effectivement contre l'épilepsie, pour sensibiliser les gens, pour amener le petit soin qu'on pouvait amener aux gens qui vivent avec l'épilepsie, surtout dans notre village qui se trouve à Fontaine, dans le sud-ouest du Cameroun. Parce que là-bas, il y a un taux vraiment élevé de l'épilepsie et les gens sont toujours dans le désarroi. Ils ne croient pas que c'est une maladie comme tout autre. Ils pensent que c'est la sorcellerie et tout. Mais il y a vraiment le travail à faire sur le terrain. C'est pourquoi on a décidé de créer cette fondation.
Racontez-nous l'expérience de votre frère qui était épileptique. Quels enseignements avez-vous tirés de sa vie qui peuvent profiter à d'autres malades?
Oui, vous savez, quand c'est votre frère, vous voulez tellement qu'il guérisse. Tout ce que je voulais, c'est de l'apporter autant de soutien que je pouvais. Je n'avais pas peur de l'épilepsie, je n'avais pas peur que ça pouvait être contagieux. Je ne savais même pas d'ailleurs, pour un bon bout de temps, que c'était l'épilepsie. Je l'accompagnais pour faire les examens au laboratoire, à l'hôpital, pour acheter ses médicaments à la pharmacie. Je ne savais même pas qu'on pouvait stigmatiser quelqu'un, mais avec le temps, surtout quand il a commencé à avoir des troubles mentaux, parce que avec l'épilepsie, il y a aussi ce risque-là d'avoir des troubles de comportement, surtout avec les effets secondaires des médicaments. Donc, c'est là où j'ai constaté qu'il y avait des gens qui nous ignoraient tous comme une famille et on disait, et on était maudits, on était tout cela. Donc, j'ai appris qu'on peut avoir une condition qu'on n'a pas cherchée, on n'a rien fait, mais avec de l'amour, avec de la compassion, on peut vraiment s'en sortir, on peut vivre. Donc, c'est pourquoi je prends vraiment à cœur tout ce que je fais.
Justement, parlant de la fondation, quels sont les services que vous offrez précisément dans le cadre de la lutte contre l'épilepsie?
Oui, vous savez, d'abord en Afrique et surtout au Cameroun, je ne sais pas dans d'autres pays, les gens n'y croient pas. Les gens ont, je ne sais pas, cette mentalité. Ils pensent que ça ne peut qu'être la sorcellerie, ça ne peut qu'être l'envoûtement. Donc la sensibilisation avant tout, elle est très importante pour moi et comme moi, je n'ai pas peur de ce qu'on va dire. Je pars partout où je peux parler. Maintenant, dans mon village, là où il y a déjà les gens et on a déjà recensé au moins 500 personnes, on organise souvent des visites médicales, on rassemble les docteurs, on fait les campagnes de collecte de fonds et de médicaments sur le net. Et puis bon, on descend sur le terrain, les gens viennent à l'hôpital. Et puis bon, ils se font consulter, ils se mettent sur les médicaments. C'est vrai qu'il y a certains traitements qui disent que ça a des effets secondaires, surtout pour les étudiants, ça les fait dormir beaucoup. Mais c'est cela qui est moins cher, mais on n'arrive même pas vraiment à trouver autant. Donc voilà ce qu'on fait. On a aussi organisé une marche sportive. Parce que bon, on s'est dit que si on marche tous ensemble avec des t-shirts violets qui portent l'insigne de la fondation et tout, les gens seront curieux. Et oui, petit à petit, les gens y adhèrent. Bon, on n'a pas encore vraiment eu de financement, on n'a pas encore eu, je ne sais pas. Donc voilà le fait qu'on peut faire.
Ouais. Vous disiez tout à l'heure que les personnes épileptiques peuvent être parfois stigmatisées. Avez-vous enregistré quelques cas dans votre fondation?
Oui. Il y a un gars, il a été dehors par sa famille parce qu'on pensait qu'il était envoûté, on en avait marre et tout. Donc, il a fait un peu la rue au village, comme on marche là. Il a perdu toute estime de soi. Donc, on l'a un peu accompagné, on l'a aidé. Il a commencé encore à travailler dans le champ. Et puis, dernièrement, il s'est marié. Et sa femme a même mis au monde des jumeaux. Et il y a une autre fille, et elle s'est mariée et son mari a constaté qu'elle avait l'épilepsie et il lui a renvoyé tous ses parents, et même enceinte. Et on ne savait pas si elle pouvait avoir cet enfant. Et bon, on l'a accompagné parce qu'on collecte aussi un peu le fonds dans la famille et on reverse à l'hôpital. On dit si quelqu'un vient avec l'épilepsie, ne renvoyez pas la personne et prenez l'argent dans ce fonds-là. Donc on a suivi cette fille et elle a accouché l'enfant. Et puis, il y a sept autres cas de l'enfant, sa maman qui avait l'épilepsie. Et bon, elle ne pouvait pas s'occuper de son enfant parce qu'elle perd toujours des repères quand elle a une crise. Et il a tout le temps les crises parce qu'il n'y avait personne pour la suivre. Donc, l'enfant était abandonné à lui-même. Il n'a pas appris à marcher, il n'a pas appris à parler. Et elle a laissé l'enfant avec sa maman, mais sa maman aussi, elle est vieille, elle est fatiguée. Et tout le monde l'abandonne au village parce qu'on dit que c'est elle qui a rendu malade sa fille. Et on a récupéré l'enfant, il s'appelle Gabriel. Et puis on l'a amené à l'hôpital et on a fait la physiothérapie. Et aujourd'hui, Gabriel, il ne marchait pas à 3 ans, maintenant il a 4 ans, il marche. Il a commencé à parler. Donc moi, je pense que c'est ça qui nous touche vraiment au cœur. Et il s'appelle Gabriel, mon petit frère s'appelait Gabriel. Donc, voilà les quelques cas. Vous savez, les gens ne viennent pas facilement comme ça, donc c'est déjà grande chose.
Pourquoi, selon vous, la stigmatisation contre les malades de l'épilepsie?
Il y a d'abord les valeurs culturelles et les croyances traditionnelles. Quand on pense que c'est la sorcellerie, un sort qu'on a lancé contre la famille et qui est tombé sur cet enfant en particulier, parce qu'on se dit que c'est religieux, on a embouté telle personne, peut-être parce qu'il a commis un grand péché ou bien ses parents ont commis un grand péché. Quand ça arrive comme ça, on stigmatise la personne parce qu'on dit qu'il est un mauvais grain et qu'il peut contaminer les autres.
Qu'est-ce qu'il faut faire pour mieux aider les malades de l'épilepsie?
D'abord, c'est de s'informer. Quand vous avez quelqu'un qui commence à avoir les crises, il ne faut pas courir chez le marabout et aller à l'église prier. Allez au centre de santé. Mais il faut aussi à l'école qu'on sensibilise les maîtres. Nous, on a écrit un petit livret et distribué dans les écoles pour sensibiliser les maîtres. Et ce qui est l'épilepsie, comme ça, quand il n'a pas une crise à l'école, on ne commence pas à dire n'importe quoi, on ne commence pas à fuir parce qu'on pense qu'il va contaminer les autres enfants. Et puis, bien sûr, de continuer à montrer de l'amour à cette personne. Parce que vous imaginez, même si vous avez le cancer, si on vous abandonne à vous-même, vous pouvez mourir plus vite.
Nous remercions Marie-Angèle Abanga pour son témoignage.
Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond.
Voici le moment, chers auditeurs, où nous vous donnons la parole pour poser vos problèmes de santé. Notre consultant, le docteur Amangenkap, a répondu à vos questions. Le docteur Amangenkap est médecin urgentiste et praticien au Centre hospitalier universitaire de Soissons en France.
Ma question est de savoir, la guérison dépend-elle seulement des médicaments ou elle dépend aussi de l'état psychique de la personne ou de la psychologie de la personne, du fait que la personne a le médicament et il se dit que si je prends ce médicament, je serai guéri ou c'est juste le fait de prendre des comprimés qui assure la guérison?
Ce que je peux répondre à cet auditeur, c'est que dans le processus de guérison, la prédisposition psychologique de la personne à accepter son traitement, désir de la personne à guérir, a une importance capitale, car on peut être guéri juste par la seule conviction de se sentir guéri. C'est d'ailleurs un effet qui porte le nom de effet placebo, qui est bien connu de la médecine. Placebo étant cette substance pharmacologiquement inactive qui est délivrée dans le cadre d'un essai clinique afin d'apprécier l'efficacité, par exemple, d'un médicament. On constate qu'environ 40% des personnes vont connaître une guérison rapide alors que ces personnes ont eu ce placebo, à savoir cette substance qui, logiquement, n'a aucun effet pharmacologique. Mais paradoxalement, les médecins vont constater rapidement une guérison des personnes qui ont pris cette substance-là, contrairement à ceux qui auront pris le médicament qu'on est en train de mesurer. C'est pour dire que la guérison s'obtient, certes, par le biais des médicaments, mais plus rapidement grâce à l'apport d'une bonne prédisposition psychologique. Et cette guérison est d'autant plus rapide lorsque le malade a confiance à son médecin, lorsqu'il a confiance à son traitement, lorsqu'il a un fort espoir de guérison et surtout lorsque ce malade-là est dans des bonnes prédispositions psychologiques pour accepter son traitement et les conseils médicaux que va lui prodiguer le médecin dont il a confiance.
Vous aimez notre émission santé? Vous souhaitez y contribuer? Rejoignez la communauté WhatsApp du programme en envoyant un message au 001 240 466 88 62. 001 240 466 88 62.
C'est ici que prend fin votre santé, votre avenir. Cette édition était consacrée à l'épilepsie, une affection du cerveau qui touche environ 50 millions de personnes dans le monde. Pour en parler, nous avons reçu comme invité le professeur Amadou Diop, neurologue en service au Centre hospitalier universitaire de Fan à Dakar, au Sénégal. Il nous a parlé des causes, des manifestations et des moyens de faire face à la maladie.
Nous avons également écouté le témoignage de Marie-Angèle Abanga, directrice de la fondation GBMEM qui lutte contre l'épilepsie au Cameroun. Elle nous a parlé de son combat qui a débuté après le décès de son frère, victime d'épilepsie. Nous leur disons merci.
Merci également à Firmin Koyaweda qui était avec nous pour vous présenter les événements qui font l'actualité santé. Une édition réalisée avec le concours de Tchèque Thierro et Karl Starin qui était à la console. À la présentation, vous étiez avec Rosine Monezero et j'étais en compagnie de
Mouamadou Oumfa.
Continuez à écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car
votre santé, c'est votre avenir.
À très bientôt.
C'était Votre santé, votre avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.